Pure Politique.
Le Jura est-il toujours un mauvais élève en matière de salle de sport? La région manque de telles infrastructures. Où en est-on aujourd'hui? Quelles pistes ou solutions ont été trouvées? De nouvelles constructions doivent-elles sortir de terre? On fait le point sur ce dossier d'actualité dans un instant. Dans la foulée, on se posera cette question. Quelle école jurassienne pour demain? Doit-elle se moderniser, revoir ses fondements et ses vocations? Quel sera le rôle des enseignants de demain, celui de l'État et celui des parents d'élèves? On ouvre la discussion. Bonsoir et bienvenue dans Pure Politique.
RFJ, Pure Politique. Raphaël Chalvera.
Pour parler d'école, le ministre jurassien de la Formation est avec nous. Bonsoir Marcel Courtais.
Bonsoir.
Avec nous également le secrétaire général du syndicat des enseignants jurassiens. Bonsoir Rémi Meury.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus dans cette émission. On va tout d'abord rapidement évoquer le problème des salles de sport dans le Jura. Marcel Courtais, vous aviez dit à notre micro en avril 2016 au sujet du manque de salles de sport, je vous cite, « Je veux des solutions rapides et efficaces ». Alors, aucune nouvelle halle de sport n'est sortie de terre depuis, mais est-ce que la situation s'est améliorée? Est-ce qu'elle est un peu plus convenable aujourd'hui?
Alors, c'est très bien, je ne me souvenais plus de cette citation, mais c'est bien, puisque c'est bien la preuve qu'il y a eu un engagement, puis qu'on a essayé de faire passablement de choses depuis cette époque-là. La première, évidemment, on n'allait pas construire des salles de sport comme ça du jour au lendemain. Ce qu'on a essayé de faire, ce qui semblait le plus judicieux, c'est déjà de faire un sondage sur ce qui existait, pour des raisons économiques, mais des raisons écologiques aussi, c'est-à-dire utiliser les salles de sport qui sont sous-utilisées, parce qu'il y en a. Donc c'est ce qu'on a fait comme premier travail, pour essayer d'encourager maintenant les écoles qui manquaient de place en salle de sport, de pouvoir utiliser l'existant. Je cite quelques exemples, peut-être. En Ajoie, on se rendait compte que pour les écoles secondaires, il y avait un manque. On a encouragé donc à s'approcher, par exemple, de communes comme Courtedoux ou Halles, qui avaient des espaces à disposition et qui étaient d'accord de les louer à des prix tout à fait intéressants. Donc déjà, utiliser ce qui existait, c'était une piste possible. À savoir que pour le cas que je cite, le plus simple a été, pour ne pas déplacer les élèves de façon trop importante, a été de louer des espaces aussi disponibles, par exemple, dans l'école de Saint-Charles. Donc c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Bien sûr qu'à moyen terme, et je peux y revenir largement si vous le souhaitez, à moyen terme, on souhaite construire, on souhaite nous soutenir les constructions, mais je dirais dans l'immédiat, voilà ce qui a été proposé. Idem à Delémont, on a fait beaucoup de démarches, on est allé voir le forum Bioui à Rosmaison, on a regardé différentes solutions, la salle de sport à Saint-Germain à Delémont, donc on a essayé de voir ce qui existait pour après faire un peu cet état des lieux, puis se dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qui nous manque vraiment? Mais je dirais, comme solution transitoire, voilà ce qu'on a pu mettre en place.
Alors, sur les constructions, on va effectivement y revenir tout à l'heure, Martial Courtais. Rémi Meury, sur la situation aujourd'hui et les mesures qui sont prises, comme Martial Courtais les a décrites, est-ce que c'est suffisant?
Alors, à mon sens, pas du tout. Il y avait déjà eu une enquête qui avait été menée en 2014 suite à un postulat qui avait été développé par Bernard Tonnerre à l'époque. Et puis, suite à ce travail, où il y avait plusieurs partenaires qui avaient participé au groupe, on avait constaté qu'en fait, il manquait, pour pouvoir répondre aux besoins réels, de que ce soit des écoles obligatoires et du secondaire 2 également, il manquait trois salles dans le district de Delémont. À Delémont, trois salles à Porrentruy, une salle à Seignelégie. Et ces sept salles sont toujours manquantes aujourd'hui. La volonté est quand même d'envisager de trouver des solutions pour qu'on évite de trop déplacer les élèves. Je trouve que les solutions qui sont proposées, puis qui sont pour l'instant proposées, sont jouables pendant sur un temps, mais quand même relativement limité. Je crois
c'est du bricolage un peu, selon
vous ? C'est un petit peu du bricolage à mon sens. Même si je comprends tout à fait la volonté de dire, il y a toute une série de salles de sport qui ont été construites pratiquement dans tous les villages. Chaque village voulait sa salle de sport. C'est devenu des salles de loto pour certaines. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce problème-là. Mais la réalité, c'est que les jeunes doivent pouvoir avoir accès à des salles de sport en ordre. J'aimerais quand même signaler un élément, et je le fais volontiers devant Martial Courtais, parce qu'il est responsable d'aucun des deux éléments en question, c'est que quand il y a eu des grands projets comme Avenir 33 ou bien Stratégie, on n'imagine pas de faire des salles de sport dans des des travaux d'une telle importance, c'est assez invraisemblable d'imaginer et puis de se dire on va trouver des solutions à l'extérieur. Et on le voit maintenant, la solution de Fresmaison n'est pas la meilleure, celle de Soyer n'est pas idéale non plus.
Donc encore une situation un peu flottante peut-être, Marcel Courtet, justement, par rapport à la construction, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette construction de salles de sport qui était souhaitée dans les chefs-lieux jurassiens. Alors on a parlé ces derniers temps du projet de 3 halles derrière le collège Turmann à Porrentruy, d'un projet de triple halle à Seignelay-Légier d'ici 2020 à côté du centre de loisirs, et puis d'un projet de triple halle à Delémont au sud des Voies. Est-ce que vous avez des nouvelles fraîches sur ces projets?
Mais peut-être justement en arrivant à ces nouvelles fraîches, vous parlez de bricolage, c'est quand même extrêmement intéressant, il faut savoir. Moi je ne considère jamais les politiciens comme, je ne crois pas à cette politique où on va arroser les citoyens et les électeurs. Moi je pense qu'au contraire, il faut juste savoir qui prend les décisions, à qui sont les prérogatives. Dans ce cadre-là,
c'est les communes.
Juste être très clair, exactement. Les communes. Moi, je me considère, et nous nous considérons dans le département de la formation, comme des facilitateurs. On est là pour mettre les gens autour de la table. C'est ce qu'on a fait encore il n'y a pas très longtemps à Porrentruy, en organisant une séance et en invitant tous les partenaires autour de la table pour dire, voilà, à Porrentruy, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire une salle triple à Porrentruy? Ou moins, deux salles, ou une, mais au moins quelque chose qui va se faire à Porrentruy.
Et sur ces projets qu'on a mentionnés, donc, est-ce que
oui, alors,
c'est en bonne voie?
Est-ce que vous oui, bien sûr, exactement.
D'accord.
Et dans ce sens-là, nous, on essaie d'appuyer ces éléments-là. Vous l'avez dit, ça avance bien à Seignelay-Légier. Maintenant, il faut voir quelle est la demande réelle. On parle de 3 salles également. Est-ce qu'il y a besoin de 3 salles à Seignelay-Légier? C'est une autre question. Moi, ce que je voudrais juste bien préciser pour qu'on soit au clair avec ça, c'est que les communes, quelque part, font ce qu'elles veulent dans ce sens-là. Elles peuvent construire autant de salles de sport qu'elles le souhaitent. Moi, le ministre des Sports en serait très content. Simplement, il faut voir ce que nous allons subventionner. C'est pour ça que je dis que nous sommes facilitateurs. Nous allons rencontrer ces communes pour leur dire, voilà, vous, au niveau des besoins, il y a 1, 2 ou 3 salles. Et on va soutenir 1, 2 ou 3, mais on ne va pas soutenir l'ensemble. Donc on essaie vraiment d'être pragmatique à ce titre-là, et on a un groupe de travail, on a fait la même chose ici à Delémont, avec la commune, ça avance bien, pour un projet de salle triple à Delémont. Je dirais même que là, ça va encore plus loin, c'est bien avancé, puisqu'on a déjà pu mettre ça à la planification financière, donc 17-21, donc avant 21, on devrait vraiment avoir quelque chose ici à Delémont.
Alors justement, Martial Courtet, Rémi Murray nous a tendu une perche. Est-ce que l'État, selon vous, il donne une impulsion suffisante dans ce dossier, où tout finalement doit reposer sur la bonne volonté des communes?
Alors là, on repose toute la question de la répartition des charges en matière scolaire entre l'État et les communes. Il faudra y réfléchir une fois d'une manière très sérieuse, pas seulement pour les équipements sportifs, pour les équipements informatiques, on y viendra tout à l'heure, d'après ce que j'ai compris. Mais je crois que dire simplement que l'État est facilitateur, effectivement, on souhaite que l'État soutienne de nouvelles constructions, mais il a aussi des obligations vis-à-vis de ses écoles propres que sont dans le secondaire 2.
Le secondaire 2, bien sûr.
Et on sait qu'il y a un manque aussi dans ce domaine. Là, notamment l'opération lycée, je ne prends pas parti pour une solution ou une autre, mais on sait qu'il n'y a pas de solution véritable qui a été trouvée. Ça crée d'ailleurs quelques conflits maintenant entre enseignants. La réalité, c'est qu'il y a 110 leçons sur l'année d'une manière régulière qui doivent être données. Ça doit être réparti d'une manière régulière. Et on considère qu'un camp de sport est une manière régulière de donner ces leçons. Ce n'est pas tout à fait correct non plus. Donc je crois qu'il faut aussi que l'État, par rapport aux communes, si on veut que les communes, les chefs-lieux notamment, respectent leurs obligations, que l'État donne aussi l'exemple par rapport à ce qui est nécessaire pour le secondaire 2 et ses écoles.
Alors,
mais d'un autre côté, pardon, quand même là-dessus. C'est tout à fait, mais s'il n'y a pas de besoin, on ne peut pas les inventer non plus. J'étais à la séance à Porrentruy, il y a une volonté de la part de certains partenaires autour de la table de dire qu'il faut une salle triple, pour des raisons que j'arrive bien à comprendre, qu'on pourrait utiliser aussi au niveau sportif, une salle de type blancherie, ça peut tout à fait être utile, et je l'encourage encore une fois, le ministre des Sports se réjouit de cela, mais nous, on ne peut pas tout subventionner. On espère qu'il y ait une volonté de la part du CGF, justement. Quand il s'agit du secondaire 2, c'est cantonal. Donc là, c'est l'État qui paye, évidemment. Mais par rapport à Porrentruy, on a fait une simulation pour la rentrée d'août. Nous avons demandé au lycée cantonal et à la division commerciale et à la division technique de Porrentruy de mettre sur papier, sur un horaire fictif, disons pour l'instant, puisqu'il n'est pas en place, de dire comment vous faites avec les salles cantonales. À Porrentruy, il y a 4 salles cantonales. Les 2 au Banais, celle des Tilleuls, celle de la division technique. Et nous avons assez de place. Nous avons même encore de la marge pour mettre des heures après 16 heures, et notamment dans la pause de midi. Donc on a assez. Donc moi, je voyais le côté facilitateur en disant, nous, il n'y a pas de besoin cantonal à Port-en-Truy. Et encore une fois, ça sera amené lors de la prochaine séance, on va vraiment donner les horaires pour dire, voilà, s'il n'y a pas d'autres salles communales, nous avons suffisamment à Port-en-Truy. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et je trouve là, on doit vraiment être aidant pour dire, on vous accompagne dans ce projet parce qu'on pense que c'est bien. Vraiment, il y a un manque sur l'ensemble des écoles. Donc, on veut que ça se fasse. Et ça, c'est important de le dire.
Rémi Meury, pour conclure sur ce dossier des salles de sport, est-ce que, dans l'attente d'avoir peut-être davantage d'infrastructures, une organisation différente est possible ou souhaitable ? Est-ce qu'on doit réduire les heures de gymnastique ?
Alors, il faut intervenir au niveau fédéral pour que la loi sur l'encouragement du sport soit modifiée. On dépend de ça. Maintenant,
dans le contexte du racisme.
Mais alors personnellement pas, parce que je crois qu'on parle d'école d'éducation physique et sportive. Moi, je pense que c'est aussi l'éducation physique et santé qui est importante. On sait qu'on doit faire beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. On fait beaucoup d'efforts par ailleurs avec les médias actifs, etc., pour dire qu'il faut tenir compte et puis soutenir votre santé. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller dans le sens de réduire. Le problème qu'il y a, c'est que les grilles horaires dans les écoles ne sont pas extensibles à l'infini. Et aujourd'hui, il y a 28 leçons dans les écoles obligatoires. C'est très difficile d'aller au-delà. En tout cas, l'État ne souhaite pas y aller. Et puis, de toute façon, on ne pourrait pas rajouter beaucoup plus qu'une ou deux leçons pour arriver à 30 leçons, comme c'est le cas avec l'anglais. Mais alors, réduire le temps de sport, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que tout le monde n'est pas sportif. Et je crois que c'est une bonne chose que l'école apprenne aussi à bouger à tous les élèves.
Affaire à suivre donc, on a bien compris avec Marcel Courtet que des projets sont en cours, que des discussions sont en cours. Voilà pour ce dossier des salles de sport dans le Jura.
Pure politique sur RFJ.
Quelle école jurassienne pour demain ? C'est une vaste question. On va donc aborder quelques thèmes généraux avec votre vision politique. Messieurs, évidemment, on ne pourra pas tout dire, mais d'autres débats sont possibles ultérieurement, pourquoi pas. On va commencer par un thème important, et Rémi Meury, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est les nouvelles technologies. Alors, est-ce que, Rémi Meury, les élèves doivent désormais travailler avec des outils plus modernes ? Est-ce que la tablette ou le smartphone doivent remplacer la feuille de papier ? Le clavier doit-il remplacer les crayons ? Delémont, par exemple, mettre de nouveaux outils à disposition des élèves, votre point de vue ?
Alors, remplacer, je ne pense pas. Il faut mettre à disposition les nouveaux outils qui existent, mais il ne faut pas abandonner ceux qui sont là depuis très longtemps, comme les livres. On va certainement parler de la lecture et puis de l'importance de la lecture puis de l'écriture. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas simplement dire on passe au tout numérique et puis les élèves vont s'adapter avec ça. Alors, c'est vrai qu'on a le sentiment parfois que les élèves en savent plus que les adultes. Je dis bien le sentiment. Dans la réalité, ils ne gèrent pas forcément ces nouveaux outils d'une bonne manière. Donc il est très important qu'on leur apprenne à les utiliser, mais que ça reste uniquement des outils. Je crois que les derniers événements en ce qui concerne les réseaux sociaux, je ne vais pas en citer un parce que j'appartiens à aucun de ceux-là, montrent qu'il est important de savoir gérer cette utilisation-là. Alors, tout numérique, à la place des livres, avoir des tablettes, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Il y a plusieurs enquêtes qui ont prouvé que lorsqu'il y a des prises de notes, la mémoire travaille mieux que lorsqu'on fait simplement une lecture sur tablette. C'est aussi un élément dans l'apprentissage qu'il ne faut pas mettre de côté et puis qu'il ne faut pas minimiser.
Vous êtes plutôt conservateur, donc Rémi.
Dans ce domaine-là, en tout cas.
Dans ce domaine-là, en tout cas. Marcel Courtet, l'école ne prend-elle pas du retard face aux avancées rapides des technologies ? On a toujours en tête cette image du tableau noir et de la craie qui crisse.
Bon, il y en a plus tant que ça, hein, des écoles. Il faut passer un petit peu dans les écoles. Il y a des choses magnifiques qui se font maintenant. Donc, en termes de moyens d'enseignement, je pense qu'il y a passablement de nouveautés qui sont mises en place. Maintenant, est-ce que c'est au niveau des moyens que se situe vraiment le problème ? Je ne crois pas. Bien sûr, on ne passera pas à côté de ces éléments technologiques. On doit même... Je complète presque les propos de Rémi Meury, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Les élèves sont, en tout cas croient être à la page à ce niveau-là. C'est à nous de les encadrer pour aussi leur dire, attention, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas parce que tu es à l'aise sur un smartphone que... Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et là, je pense qu'il y a un vrai travail pour aller dans le sens de la prévention, dans le sens de l'explication, dans le sens de l'esprit critique. Là, on peut rejoindre
donc
des
branches. Donc là, vous dites aux écoles jurassiennes, munissez-vous d'outils modernes, de tablettes pour vos élèves. Est-ce que c'est un message que vous souhaitez faire passer?
Oui, on peut faire passer ce message. Ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui doit se passer plutôt que de dire rajoutons un nombre de... On l'a entendu à la CDIP il n'y a pas longtemps, pas simplement de canton en Suisse allemande, nous pousse avec ça en disant faut rajouter beaucoup d'heures d'informatique, par exemple. Oui, bien sûr, mais comment on met ça dans la grille horaire? Et dans ce sens-là, ce qu'on pense, c'est que les enseignants doivent maintenant pouvoir vraiment, dans le cadre de leur cours, et je parlais du français, pourquoi pas, de dire dans ces cadres-là, soyons aussi un peu plus en lien avec la technologie, et je crois que c'est clairement dans le plan d'études par rapport à ça. Et pour soutenir ça, nous avons pris la décision maintenant de mettre en place à la rentrée d'août de cette année deux postes, donc un nombre de décharges équivalent à deux postes pour que nous puissions soutenir dans toutes les écoles jurassiennes, dans tous les cercles scolaires, qui est un responsable mythique, justement par rapport à tous ces moyens d'informatique.
Rémi Muru, justement, vous côtoyez les enseignants. Est-ce qu'on parle dans le milieu des moyens, justement? Est-ce qu'ils sont suffisamment modernes, suffisamment nombreux?
Alors, le problème qu'il y a, puis là, ça pose une question beaucoup plus globale, et je reviens sur la répartition des charges. C'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens d'enseignement sont à la charge intégrale des communes. Mmh. Et on pourrait imaginer que si on veut s'assurer qu'il n'y ait pas des écoles à deux vitesses, avec les communes riches qui pourraient équiper leur école et puis renouveler d'une manière très régulière, et les autres qui disent oh, finalement, on n'a pas le temps de le faire, on n'a pas les moyens de le faire, qu'on réfléchisse à un nouveau fonctionnement de la répartition des charges. C'est beaucoup plus vaste que ça. Les enseignants sont maintenant des employés de l'État, d'une manière très très claire. Donc il faudra peut-être aussi réfléchir à ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le régler, ce n'est pas cette législature ici, mais à mon avis, il faudra y penser. Mais on se rend compte que malheureusement, il y a des distorsions entre les écoles, où dans certaines écoles de communes qui ont les moyens de le faire, ont des équipements très intéressants, comme des tableaux interactifs, des choses de ce type-là. Et puis dans d'autres communes, où on espère que la lampe du rétroprojecteur ne saute pas dans la semaine. Donc j'exagère à peine. J'ai un exemple, mais je ne vais pas le citer parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Et on peut faire de l'excellent travail pédagogique sans avoir forcément tous ces outils informatiques. Mais je crois que c'est important de les mettre à disposition de tous les élèves jurassiens, puis faire attention qu'il n'y ait pas une sorte d'école à deux vitesses qui se mette en place dans le canton.
Et dans ce sens-là, alors, nous sommes OK pour la subvention au niveau légal, et on a eu des cas maintenant. On peut soutenir au niveau de la subvention les tableaux interactifs typiquement. Ça, on peut prendre en compte. Quand il y a une rénovation dans une école, il ne faut pas que les communes aient peur de cela. Nouveaux moyens technologiques, ça, on prend au niveau de la subvention cantonale. Ça, c'est en ordre.
Vous parliez, Martial Courtet, de prévention, d'apprendre finalement à utiliser ces outils. Alors, pour avancer dans le débat par rapport aux cours que l'on peut dispenser dans les écoles et ces avancées technologiques, par exemple, prenons un cours qui est donné, qui fait souvent parler de lui, c'est l'histoire des religions, par exemple. Alors, des cours sur ce thème, celui qu'on prend comme exemple, est-ce qu'ils ne doivent pas être remis en cause et remplacés, pourquoi pas, par une éducation aux outils actuels? Est-ce que des nouveaux cours pourraient être imaginés pour remplacer ceux-ci, par exemple?
Bon, bien sûr qu'on peut imaginer des nouveaux cours. Je ne crois pas que ce soit à l'heure actuelle, et je ne suis pas d'accord avec vous sur l'exemple que vous donnez là, par rapport à l'histoire des religions. Je crois qu'au contraire, dans notre société, je pense que l'école doit faire apprendre des choses très concrètes, écrire, calculer, et le reste par rapport au plan d'études, mais qu'on doit aussi apprendre à réfléchir, apprendre à comprendre les cultures, et dans ce sens-là, l'histoire des religions, on parle pas comme...
C'est pas le rôle du catéchisme.
Justement, c'est pas du catéchisme. Alors ça, il n'y a plus de catéchisme à l'école obligatoire, ça c'est clair. Par contre, il s'agit bien de l'histoire des religions, et apprendre l'histoire notamment de l'islam dans le cadre du programme d'histoire. Hein. L'histoire des religions fait partie à l'école secondaire du programme d'histoire. Hein. Les trois années, 9, 10, 11, l'histoire des religions est dans le programme. Il n'y a pas une leçon qui s'appelle l'histoire des religions.
On le privilégie.
Donc c'est historique.
C'est par exemple.
Il n'y a pas de raison de le privilégier. Ça doit être maintenu. Maintenant, ce que je dis par rapport au cours informatique, c'est extrêmement difficile de dire on va supprimer telle ou telle branche. Ça, c'est quand même, si elles existent, si elles sont en place, les branches, on pense aux langues, etc. Donc, il n'y a pas de raison de les supprimer. Elles ont leur importance. Finalement, tout aura son importance. Donc, c'est à nous de faire des choix. Et le mieux encore par rapport à l'informatique, c'est d'essayer de l'intégrer le plus possible dans le cadre des leçons, plutôt que de vraiment faire deux périodes qui existent d'ailleurs à l'école secondaire, de faire des périodes ou encore plus de périodes d'informatique. On pense que ça peut être utilisé dans le cadre des leçons.
Vous semblez assez d'accord.
Oui, tout à fait. Bon, l'exemple que vous prenez, c'est le mauvais moment de le prendre en exemple, hein, l'histoire des religions. Par rapport à la, à la mission de l'école d'ouverture vis-à-vis des autres, c'est vraiment important qu'on puisse dire aujourd'hui, il n'y a pas que des méchants musulmans, hein, parce qu'on le présente un peu de cette manière-là. Et puis je trouve que c'est très très bien que l'histoire des religions, de ce point de vue-là, puisse être développée. Qu'on ait à avoir une réflexion sur l'ensemble de la grille horaire, c'est pratiquement inévitable, c'est pas toutes les années, mais tous les 5-6 ans, il faudra réfléchir à ça.
Alors, j'allais vous poser la question, justement, j'enchaîne. Est-ce que l'école doit avoir des vocations nouvelles, des missions nouvelles, peut-être par rapport à cette grille dont vous parlez?
Non, alors moi je pense que par rapport aux missions, il faut quand même continuer d'imaginer que l'école, c'est l'école pour tous, et puis que dans cette école, on doit leur apprendre à devenir responsables et autonomes. Et c'est ça la mission principale. C'est comme ça qu'on va leur permettre de répondre aux adaptations nécessaires une fois qu'ils seront dans le monde du travail, qui va très très vite, beaucoup plus vite que l'école. L'école ne pourra jamais être prête et puis à répondre aux avancées du monde économique qui ont des intérêts différents. Simplement, il faut réussir à former des jeunes qui sont aptes à s'adapter rapidement à ces changements, puis à entrer et puis répondre aux besoins qu'il y a. C'est pas si phénoménal que ça. Pour ce qui est du mythique, moi je suis alors entièrement d'accord avec le ministre quand il dit que c'est un outil qu'il faut utiliser dans toutes les branches. Et s'il y a des branches spécifiques, c'est pour pouvoir apprendre à utiliser ça comme on apprend à lire avec un manuel. Et après, la tablette ou l'ordinateur, ça devient un outil comme un manuel pour comprendre ce qu'on doit faire en maths, en français, en allemand, etc.
Marcel Courtet, vous l'avez dit tout à l'heure, l'école, on peut dire de manière très simple, lire, écrire, calculer. Est-ce que ces fondements sont toujours les bons?
Oui. Ça, j'en suis convaincu. C'est important, peut-être encore plus qu'il y a quelques années, parce qu'on sent qu'il y a certains élèves qui sont justement peut-être en décrochement. Et pour cela, il ne faut vraiment pas oublier ces bases-là. Alors ça, j'en ai la conviction, à tel point que, d'ailleurs, avec le chef du service de la formation secondaire 2 et tertiaire maintenant, on est sur un projet pour ces compétences de base, justement, pour travailler ces compétences de base, pour ne pas laisser certains jeunes au bord de la route, parce qu'on l'a dit avant, il y a une génération là, formidable au niveau technologique qui sont assez avancées, mais peut-être au détriment d'autres choses. Et ces bases-là, alors on est convaincu qu'il faut qu'elles soient maintenues, ne serait-ce que pour les futurs dans la situation professionnelle.
Mais est-ce qu'on insiste suffisamment? On pense à nos grands-parents avec leur magnifique écriture dans un français impeccable, alors qu'aujourd'hui, peut-être aussi à cause des réseaux sociaux, on écrit un peu n'importe quoi et avec beaucoup de fautes.
Oui, alors beaucoup de fautes, n'importe quoi aussi au niveau du fond. Moi, c'est ça aussi qui m'inquiète. La forme, on peut en discuter. Est-ce qu'il est encore nécessaire d'être autant à cheval sur l'orthographe alors qu'on sait qu'on a des correcteurs d'orthographe remarquables, hein, maintenant, qui nous permettent d'écrire sans faute? Mais sur le fond, je crois qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion. Vous recevez des tonnes de messages. Les jeunes reçoivent sur leur smartphone, sur leurs iPads, etc., une tonne d'informations. Et des fois, il faut qu'ils arrivent à les décrypter. Et c'est pour ça que la lecture et la compréhension de ce qu'on leur envoie est fondamental si on veut faire en sorte qu'ils soient encore capables de garder suffisamment de sens critique par rapport à ce qui est déversé sur les réseaux sociaux notamment.
C'était juste pour compléter mon propos de tout à l'heure sur ces compétences de base sur lesquelles on travaille. Oui, lire, écrire, mathématiques, ça c'est sûr, mais aussi le troisième élément, c'est ces technologies de l'information.
Puisque c'est un nouveau pilier que l'on peut imaginer
exactement.
Aujourd'hui. Absolument, très bien.
Et puis savoir compter, c'est indispensable si on veut rentrer au gouvernement.
Rémi Meury, est-ce que l'envie d'apprendre est suffisante aujourd'hui? Est-ce que l'enseignement, par exemple, ne doit pas prendre un virage peut-être un peu plus ludique dans l'approche, dans ce qu'on propose aux élèves?
Alors je crois que les enseignants savent s'adapter aux besoins des élèves et puis à la manière de les intéresser. Et c'est vrai qu'on n'a plus tout à fait la même manière d'avancer qu'avant. C'est vrai que quand moi je suis allé à l'école, on était en randonnion, en face de nous il y avait un enseignant qui était au tableau, et puis c'était de l'enseignement purement frontal. Maintenant il y a une différenciation qui se met en place dans les classes automatiquement, quel que soit le niveau de classe, si elles sont à un seul degré ou à plusieurs degrés, il y a inévitablement de la différenciation qui se met en place, et c'est comme ça qu'on réussit à intéresser aussi les élèves, pour autant que la notion de collaboration entre élèves et de collaboration entre la famille et l'école soit suffisamment bien comprise.
L'école suffisamment ludique aujourd'hui, Marcel Courtet, est-ce qu'on peut imaginer aussi des nouvelles choses, voire un peu plus de pratique, pourquoi pas des fois aussi?
Bien sûr, hein, on peut être ouvert à toutes sortes de choses. J'aimerais juste pas que on oublie ces aspects fondamentaux. On l'a peut-être fait ces dernières années, finalement, d'avoir cette tendance à compliquer, à vouloir prendre en compte toutes les thématiques qui existent dans notre société. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les parents ont un rôle. Voilà, l'école ne doit pas tout faire non plus. Et j'ai peur qu'on s'éparpille un peu parfois. Je pense qu'il y a des bases à maintenir.
Marcel Courtais, quand on sort de l'école aujourd'hui, est-ce qu'on est suffisamment, à votre avis, préparé à relever les défis de la vie, qu'ils soient professionnels ou personnels? On voit quand même que de plus en plus d'élèves ne savent pas quoi faire au terme de la scolarité obligatoire. Est-ce que c'est un problème pour vous, ministre de la Formation?
Oui, c'est un problème, évidemment. C'est un problème.
Expliquer.
Bon, c'est un phénomène assez lié à notre société, lié à l'encadrement. Je faisais allusion à l'encadrement parental parfois, qui, et c'est pas jugeant de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a des situations qui font que peut-être ces jeunes sont confrontés à certaines réalités auxquelles ils n'étaient pas confrontés il y a peut-être quelques dizaines d'années. Donc dans ce sens-là, au niveau de la société, je pense qu'il y a eu une évolution, et c'est à nous d'offrir le plus possible d'ouverture suite à l'école obligatoire. Donc de maintenir un bon niveau de l'école obligatoire et de faire qu'après, il y a des possibilités. Et je crois que c'est vraiment le cas avec toutes les passerelles qui sont proposées. Un jeune peut maintenant se lancer dans un apprentissage. On essaie vraiment de faire de la publicité pour l'apprentissage en disant que ce n'est pas du tout une voie de garage, mais vraiment pas au niveau jurassien, au niveau suisse en général. Mais vraiment, il y a des pistes extraordinaires qui existent. Et on peut se lancer dans un apprentissage, puis après partir sur un tout autre parcours professionnel. Donc là, ce qui existe maintenant en termes de matu professionnel qui ouvre toutes sortes de portes, ces passerelles, Ça laisse quand même beaucoup de chance. Donc, je dirais que un bon niveau, disons, on ne veut pas parler d'excellence, mais quand même un niveau suffisant à la sortie de l'école pour après pouvoir, au fil de la maturité, on ne peut pas demander à tous les élèves, à l'âge de 15 ans, à peine, de pouvoir être au top et de savoir exactement vers quoi ils vont. Et je pense que là, notre société, on dit toujours que ça va moins bien qu'avant. Là, je pense qu'il y a des vraies ouvertures pour dire, mais partez dans un domaine, puis si ça ne vous convient pas, vous avez une base que vous pourrez réutiliser pour partir dans autre chose, peut-être.
Alors, Rémi Meury, justement, par rapport à l'école obligatoire, est-ce que le métier d'enseignant, il va évoluer? Est-ce qu'il doit développer de nouvelles compétences, peut-être pour éclairer davantage les jeunes, leur donner peut-être plus de certitude au moment où ils quittent l'école obligatoire?
Oui, alors des certitudes, je pense que c'est très important qu'ils en aient. Ce qui est fondamental, me semble-t-il, c'est qu'on continue de créer des êtres autonomes et responsables. Et de cette manière-là, parce que c'est vrai que dans la formation duale, il y a quand même des possibilités qui sont offertes aujourd'hui, c'est assez remarquable, que ce soit en Suisse en général ou dans le Jura en particulier. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on leur apprenne que leur responsabilité, c'est aussi de trouver une formation qui leur plaît. Et la responsabilité de l'école, ce n'est pas tellement d'amener à une égalité des savoirs, ce qu'on croit souvent. Pour moi, l'égalité des chances, ce n'est pas l'égalité des savoirs. C'est par contre l'égalité leur permettre à chacun de développer des compétences qui leur permettront de développer leur autonomie, leur responsabilité par la suite. Alors, c'est vrai qu'on constate que malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui se posent des questions sur le type de formation qu'ils vont suivre. Mais c'est aussi lié au phénomène assez grand qu'on constate maintenant, c'est-à-dire que les choses vont très très vite et toutes les professions changent très très vite. Et si à l'âge de 12 ans, ils avaient peut-être une idée sur une formation donnée, ils se rendent compte qu'à 15 ans, c'est plus tout à fait la même formation, c'est plus tout à fait la même profession, et ils se posent toute une série de questions. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas minimiser le problème qui existe maintenant. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent dans des situations où ils n'arrivent pas à faire de choix, mais il ne faut pas non plus l'exagérer parce que souvent ces jeunes, après une année de transition, se trouvent avec des solutions auxquelles ils ne pensaient même pas à l'origine et puis réussissent à tout à fait s'épanouir.
On a parlé de l'école des enseignants. Il y a évidemment aussi les parents. J'aimerais qu'on parle un moment des parents, de cette relation entre les familles, les parents et l'école. Alors, il y a ce fameux cliché. Il y a quelques années, un élève qui a une remarque dans son carnet de devoirs est grondé et puni par ses parents. Aujourd'hui, un élève a une remarque dans son carnet. C'est les parents qui appellent l'enseignant, pourquoi pas, pour lui passer un savon, pour lui demander des comptes ou contester, parfois de manière virulente. Rémi Meury, le partenaire famille, est-ce qu'on doit aujourd'hui redéfinir son rôle ?
Alors, redéfinir son rôle, non. Je crois qu'il faut revenir simplement à des bases en maintenant les droits et les devoirs de chacun au niveau où ils doivent. D'abord, il faut que les parents apprennent, puis ça, les autorités doivent défendre les enseignants dans ce sens-là. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, hein, elles le font au contraire, mais doivent défendre en disant ce sont des professionnels de l'enseignement et quand vous vous adressez à eux, vous ne leur donnez pas de leçons. C'est eux qui sont payés pour en donner, généralement.
On doit réussir à donner plus de crédibilité aux enseignants.
Il faut donner beaucoup de crédibilité aux enseignants et surtout amener les parents à reconnaître que leur enfant entre dans une petite société qui doit être gérée par l'enseignant ou les enseignants qui y interviennent et puis qu'il n'y a pas un enfant unique qui est le leur. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Deuxième chose, je pense qu'il faut que certaines personnes apprennent à prendre contact avec les enseignants, mais avec d'autres personnes d'une manière générale, d'une autre manière qu'en agressant les interlocuteurs. J'aimerais quand même signaler, et puis ça, j'aimerais terminer là-dessus, c'est que la grande majorité des parents sont des gens qui sont tout à fait corrects et qui reconnaissent le travail des enseignants, et il y a quelques quérulents qui rendent les choses un peu plus difficiles, puis parfois insupportables pour les enseignants.
Alors justement, Marcel Courtais, qu'est-ce que l'État peut préconiser dans l'équilibre peut-être à retrouver dans l'éducation entre les enseignants et les parents ?
Oui, alors je suis assez convaincu de cela. Dans mon précédent métier, donc dans le conseil pédagogique, on a mis souvent les gens autour de la table. Moi, on me contactait pour dire, voilà, il faut aller, donc le côté inspecteur scolaire, donc il faut aller voir tel enseignant, ça va pas, etc. Ok, mais vous leur avez déjà parlé de ces problèmes ou ils sont conscients ? Ah non, mais on peut pas parler avec. Donc, mettre les gens autour de la table, dire ce qui va pas. Alors, posément, faut pas engueuler les gens, mais de pouvoir discuter des situations, on va déjà en désamorcer les trois quarts. Après, quel est notre rôle ? Moi, je crois que c'est assez juste. Il faut que l'image véhiculée ne doit pas être négative sur les employés de l'État. Je pense que ce sont des personnes qui font énormément de travail, qui sont passablement sous pression. Moi, je pense que vraiment le cliché du fonctionnaire, comme on l'a eu pendant un certain nombre d'années, je pense que ça, c'est vraiment un cliché qui n'existe plus. Moi, je peux vous dire que les personnes que je croise dans notre administration, ce sont des personnes qui bossent beaucoup, qui bossent sous une certaine pression. Et voilà, c'est aussi pour ça que des fois, on manque un peu de postulants. C'est pas un hasard non plus. Hein. Si tout le monde ne veut pas se lancer dans ce genre de métier, c'est qu'il y a bien quand même des raisons. Donc, je pense qu'il faut aussi reconnaître ça de la part des parents. Et quand, je dis pas qu'il n'y a pas de remise en cause à faire, hein. On a aussi des fois des personnes qui dysfonctionnent et l'État doit gérer ses employés qui dysfonctionnent. Mais je crois que ça se fait largement. D'ailleurs, un poste est actuellement au concours d'inspecteur scolaire pour aussi traiter ces cas. Donc, je suis convaincu que c'est des situations minimes dans le sens que ça ne concerne finalement pas tant de personnes que cela, puisque dans l'ensemble, le travail est fait. Et je crois vraiment, j'insiste là-dessus, moi je côtoie vraiment des gens qui se font beaucoup de soucis, qui ont une vraie volonté de bien faire, qui des fois font peut-être pas juste parce que c'est des fois des questions de communication, comment s'exprimer avec des jeunes de ces âges-là, comment s'exprimer face à des parents. C'est vrai que des fois, on pense pas à communiquer ou on n'arrive pas bien à le faire. Là, on peut améliorer ça. Mais je dirais que de valoriser quand même ces professions en disant, oui, il y a un métier qui est difficile quand même, qui est fait, et là je parle aussi de façon générale pour les personnes qui travaillent dans l'administration, des personnes qui travaillent sous pression, c'est pas des gens qui sont tranquilles sur leur canapé, donc je pense dans ce sens-là, faut aussi prendre conscience de ceci.
Messieurs, on arrive déjà gentiment, mais sûrement au terme de notre émission. On a à peu près encore 3 minutes, donc très peu de temps. On va vraiment aller à l'essentiel, mais c'est important de vous entendre, puisqu'on a le ministre de la Formation et le secrétaire général du SEJ. L'école jurassienne a souvent été, ces dernières années, en zone de turbulence. Alors, est-ce que les regards sur l'avenir vont désormais dans la même direction ? Le service de l'enseignement, le syndicat des enseignants jurassiens, les professionnels de la branche, est-ce qu'on s'entend désormais suffisamment bien, Rémi Meury ?
Oui, alors très honnêtement, je dois dire d'une manière très très claire qu'avec l'arrivée du nouveau chef de service de l'enseignement, les choses se passent très très bien. On a un dialogue qui est permanent, on se rencontre régulièrement. Encore cette semaine, je vais rencontrer le service d'enseignement et le ministre nous rejoint toujours pendant une période pour discuter de certains éléments. Il y a un véritable échange et je crois que c'est de cette manière-là qu'on arrivera à améliorer les choses. L'école est en mouvement perpétuel, il y a toujours des nouveaux dossiers, il y a toujours des nouveaux projets, et je crois qu'il faut se rendre compte qu'il y a peut-être des obligations qui sont données du côté des autorités, mais que rien ne se fera sans les enseignants. Et si on réussit à mettre tout le monde d'accord sur un projet, ses chances de succès sont énormes.
Marcel Courtais, au début de votre mandat, vous aviez demandé cet audit. Les choses vont s'améliorer. Vous le sentez aussi, tous les partenaires discutent sereinement aujourd'hui. L'ambiance s'est bien améliorée quand même.
Oui, l'ambiance est clairement améliorée. Ça, c'est une vérité. Bon, il y a eu beaucoup de changements. Hein. Je me demande même dans l'histoire du canton s'il y en a eu autant. Le service de l'enseignement, depuis 2 ans, a vu 9 personnes sur 24 quitter le service. J'ai envie de dire de gré ou de force, mais toujours est-il que changement il y a eu. Alors maintenant, maintenant ça va mieux, ça ne veut pas dire que je ne jette pas la pierre, ça ne veut pas dire que toutes les personnes, c'est pas du tout, je ne suis pas dans le cliché, hein. Évidemment c'est toujours plus complexe que ça, mais changement il y a eu, ça a été brutal aussi, moi j'ai eu affaire à des personnes, à des avocats, voilà, qui défendaient les personnes concernées, donc je veux dire, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'il fallait le faire, il fallait donner... il fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière, puis il fallait peut-être aussi donner une nouvelle ligne par rapport à ça. Et je dois dire, toutes les personnes qui nous ont accompagnés, dans ce sens-là, je trouve aussi que le nouveau chef du service fait un travail formidable en rassemblant les forces du service, mais en ayant aussi une ligne très claire, on voit où on va. Donc je trouve que cela, ça va dans le bon sens. Ça n'a pas été facile, parce que je pense aussi à certaines personnes qui ont quitté le service... En toute bonne foi, mais avec qui on avait des difficultés de travailler. Moi, je trouve qu'on est, voilà, on est arrivé là. Maintenant, il y a encore du boulot, mais il fallait faire ces changements de façon peut-être un peu forte, parfois un peu brutale. Mais je pense au contraire que si ça n'avait pas été fait, on ne serait pas autour de la table aujourd'hui à discuter de façon sereine.
La sérénité donc retrouvée. Martial Courtais, Rémi Meury, merci d'avoir répondu à l'invitation de Pure Politique. Vous retrouverez cette émission en podcast sur rfj.ch dans l'heure qui suit. Rendez-vous le 30 mai pour le prochain numéro. Nous débattrons de la votation cantonale du 10 juin sur l'initiative populaire Prestations complémentaires pour les familles et du contre-projet adopté par le Parlement. Excellente soirée.
Merci. Merci à vous aussi. Bonne soirée.
Pure Politique sur RFJ.